Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bonjour et bienvenue à Rocamadour pour un nouvel entretien avec l'un des artistes invités et programmés lors de l'édition 2022 du festival. Aujourd'hui, c'est le claveciniste et organiste Louis-Noël Bestion de Camboulas qui a la gentillesse de se prêter au jeu des questions-réponses à quelques heures du concert qu'il donne ce soir à 20h30 dans la vallée de l'Alzou avec l'ensemble Les Surprises, une formation dont il est le cofondateur et le directeur artistique. Louis-Noël Bestion de Camboulas, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette interview.
Bonjour, merci à vous.
Rocamadour, ce n'est pas une première pour vous, puisque vous êtes déjà venu en 2014 pour participer au festival, à une époque où Les Surprises étaient encore un tout jeune ensemble. Quel souvenir gardez-vous de ce concert à la Basilique Saint-Sauveur, puisque c'était à la Basilique Saint-Sauveur ?
Oui, c'est vrai que c'était nos premières années de concert, et j'en garde un très bon souvenir, parce que c'était un moment aussi où c'était la première année où on créait ce programme méditation, qui est autour des méditations pour le carême de Charpentier, dans un effectif assez restreint, puisqu'on était 6 musiciens, 3 chanteurs, 3 voix d'hommes et continuo. Et c'est vrai que j'ai un excellent souvenir de l'acoustique, notamment voilà, pour une formation assez intimiste comme ça. Et puis ce lieu quand même très très inspirant, enfin voilà, une basilique magnifique, et puis toute cette ville magnifique autour, et c'est vraiment assez touchant comme lieu, et donc c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir.
Lieu chargé d'histoire et marqué bien sûr par la présence du sacré, donc quand on y donne de la musique sacrée, ben ça prend encore une autre dimension, en tout cas c'est ce que j'imagine. Nous allons bien sûr évoquer le concert de ce soir dans la vallée de l'Alzou. Vous allez donner rien moins que la Passion selon Saint Jean, œuvre colossale s'il en est, et véritable événement pour le festival, puisque c'est la première fois que le chef-d'œuvre de Jean-Sébastien Bach y est programmé. Avant, je voudrais que vous nous en disiez un peu plus sur l'ensemble Les Surprises, sur les musiciens qu'ils composent, sur votre démarche artistique et le répertoire que vous abordez. Ce soir, c'est Bach, mais le cœur de votre répertoire, c'est le baroque français des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment l'opéra baroque français de cette période. Est-ce que c'est lié à une passion personnelle pour cette musique ?
Oui, alors l'ensemble Les Surprises, donc ça fait une dizaine d'années que nous l'avons créé, donc avec Juliette Guignard qui joue la viole de gambe. Et c'est vrai que dès le début, moi j'avais voulu orienter en effet notre travail sur la musique baroque française, et puis sur aussi une démarche de recherche et de mise en lumière d'œuvres peu connues. Évidemment, parce que c'était une passion, la musique baroque française. Alors, c'est vrai que j'en ai beaucoup d'autres, parce que voilà, on va pouvoir parler aussi de Bach et de cette Saint-Jean que j'adore. Mais c'était aussi une volonté, voilà, d'inscrire une démarche pour un ensemble. Parce que c'est vrai que bah, finalement, aujourd'hui, des ensembles baroques, il en existe beaucoup. Et c'est quand même bien de montrer aussi une spécificité, ou en tout cas des spécificités. Donc en effet, on a travaillé beaucoup et on continue à travailler beaucoup sur la musique baroque française. Et puis maintenant, vu que ça fait une dizaine d'années qu'on existe, j'ai le souhait aussi de montrer tout ce qu'on peut faire d'autre, d'où de la musique de Bach, du Purcell aussi dernièrement, des projets de musique italienne qui vont arriver plus tard. Mais c'est vrai qu'en tout cas, le socle, c'était vraiment la musique baroque française. Et puis ça nous a permis, étant donné qu'on aime travailler avec des musiciens réguliers, disons d'affirmer un son, de travailler le son que je souhaitais développer avec l'orchestre ou avec des chanteurs. Et puis c'est vrai qu'il y a cette notion évidemment dans notre répertoire de changement d'effectifs, en tout cas de différents effectifs en fonction des projets. On a vraiment un noyau de musiciens qui est toujours le même. Et puis c'est vrai que quand on est évidemment 30 ou 40, eh ben le noyau s'agrandit. Mais en tout cas, l'esthétique reste la même.
Vous jouez sur instruments anciens, inutile de le préciser, je pense que tout le monde l'aura compris. Donc le noyau de musiciens, c'est une dizaine, une quinzaine qui sont là depuis les débuts.
Oui, c'est ça, c'est à peu près une quinzaine, oui. Et c'est un peu aussi l'effectif avec lequel on a créé pas mal de programmes qui sont, je dirais, de la musique de chambre un peu élargie ou de l'orchestre de chambre. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire et qu'on a fait justement sur des opéras en version de chambre.
Je veux qu'on parle de votre travail de chercheur, parce que ça doit être passionnant, en tout cas j'imagine. Vous devez passer beaucoup de temps à fouiller dans les fonds musicaux de la Bibliothèque nationale de France et chercher toutes ces partitions du XVIIe, XVIIIe siècle. Est-ce qu'il reste, selon vous, encore un champ d'exploration énorme à exploiter ?
En fait, oui, il en reste énormément, pas uniquement dans ces siècles-là et dans le répertoire français. Enfin, en fait, finalement, à toute époque, dans tout lieu, il reste énormément de musique à découvrir. Alors moi c'est dans le domaine de la musique, mais je pense dans le domaine des arts en général, il y a plein de choses qu'on connaît pas, et je dirais que peut-être on connaît allez, un dixième peut-être. Et on en joue encore moins parce que finalement, c'est vrai que des fois, quand on regarde des programmations, par exemple, d'opéra, on voit un peu chaque année les mêmes choses, ou alors tous les deux ans, c'est le même opéra qui est remis en scène. Pourquoi pas, c'est vrai, pourquoi pas rejouer des grandes œuvres qui sont magnifiques et qu'on connaît et qu'on aime. Mais moi, je trouvais ça intéressant d'aller plus loin aussi, d'aller chercher d'autres œuvres, et en fait, qui, en tout cas, ont autant de valeur musicale.
Je crois que souvent, les partitions que l'on peut trouver peuvent être incomplètes ou en mauvais état. Est-ce que ça suppose parfois de deviner les notes et de reconstituer finalement une œuvre ?
Oui, c'est vrai qu'il y a ce travail-là qui est fait. Moi, ça m'arrive de devoir le faire. Je l'ai fait sur des projets précédents de musique baroque française. Et puis, des fois aussi, on le fait avec des structures. Par exemple, je pense au Centre de musique baroque de Versailles, avec qui nous, on travaille depuis plusieurs années, puisque voilà, on s'est assez bien retrouvés. Parce qu'évidemment, eux, leur but, c'est de remettre en valeur du patrimoine baroque français. Et notamment pour un des projets qu'on tourne cet été et puis qu'on va enregistrer aussi à l'automne, qui sont des grands motets baroque français. Il y a dedans le Tédéum de Charpentier, bon, qui est un best-of. Mais à côté de ça, on joue aussi le Tédéum d'Henri Desmarais, qui justement montre bien ce travail-là, puisque c'est une œuvre qui est inédite, donc qui n'a pas été rejouée depuis cette époque-là, et dans laquelle on a retrouvé des partitions, mais il y avait certaines choses qui étaient un peu fautives, il manquait des parties intérieures par moment. Donc en fait, il y a eu un travail des musicologues pour reconstituer la partition telle qu'elle avait été jouée.
Alors, illustration et conséquence de ce travail de recherche, 5 CD dédiés au baroque français sont parus sous le label Ambronay Édition depuis la fondation des Surprises. Et il y en a notamment un consacré à un certain, je vais dire un certain parce que moi j'avoue je ne le connaissais pas, André Cardinal Destouches, né en 1672, mort en 1749, mais qui est donc ce compositeur dont j'en suis à peu près certain, très peu de personnes, même les grands mélomanes doivent connaître le nom.
Oui, c'est vrai qu'il est peu connu. En fait, c'est aussi cette période finalement un peu charnière entre, enfin en tout cas en France, on a voilà pour l'opéra deux grands compositeurs qui sont et très connus aujourd'hui, qui sont Lully et plus tard Rameau. Et en fait, entre Lully et Rameau, il y a quand même toute une période, c'est-à-dire au début du XVIIIe siècle, qu'on connaît assez peu, avec des compositeurs comme Destouches, comme Campra, qui ont en fait beaucoup œuvré. Et alors ce Destouches, c'est vrai qu'aujourd'hui on le connaît peu, mais il a une vie, je trouve, en plus assez rocambolesque, assez intéressante. Et puis c'était vraiment un des grands compositeurs de ce moment. Donc il a commencé à œuvrer quand il était tout jeune, à la fin du règne de Louis XIV. Et puis après, ça a été un des grands compositeurs à l'époque de Louis XV.
Élève de Campra lui-même, et à qui j'ai vu en faisant quelques recherches, en préparant cette émission, Voltaire a consacré une œuvre qui s'appelle André Destouches à Siam, parce qu'il a voyagé à Siam, voilà, à l'époque. Ouais, ouais. Vous parlez de vie rocambolesque, et bien ouais. Ça a inspiré Voltaire et ça lui a inspiré cette œuvre, André Destouches à Siam. Avant de parler de la passion selon Saint-Jean dans quelques instants avec vous, nous allons écouter l'ensemble Les Surprises. Il se trouve que votre dernier CD paru l'an passé sous le label Alpha Classique, celui-ci a pour titre Passion. Ça n'a rien à voir avec Bach, mais je propose tout de même qu'on en écoute un extrait où vous accompagnez cette merveilleuse chanteuse qu'est Véronique Gens.
Je t'ai vendu, j'ai perdu mes héros.
Un extrait de Passion, dernier disque paru de l'ensemble Les Surprises, qui accompagne ici Véronique Gens. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve sur ce CD? Quels compositeurs y sont abordés? Eh bien, que des Français, bien sûr, une fois de plus. Mm-hmm. Et pas du tout Jean-Sébastien Bach, même si le titre est Passion. Passion, bah, c'est la vôtre.
Voilà, là, c'est vrai. Et puis, c'était aussi l'envie de mettre en avant les passions humaines et puis les passions de certains personnage d'opéra féminin, évidemment, puisque c'était avec Véronique Gens. Et c'est vrai qu'on s'était rencontré avec Véronique un an avant, et puis on avait vraiment envie de faire un disque ensemble, et de faire un disque qui soit une forme d'opéra imaginaire, un peu, avec différents personnages d'opéra, et donc tourner autour du XVIIe siècle français, c'est-à-dire Jean-Baptiste Lully, et puis ceux qui ont un peu vécu autour de ce personnage-là très particulier, qui laissait peu de place, en fait, aux autres compositeurs, il faut le dire. Et donc, évidemment, il y a du Charpentier, Marc-Antoine Charpentier, et puis des compositeurs moins connus comme Henri Desmarais ou encore Pascal Colas, qui étaient deux élèves de Lully.
Bach, maintenant. Je ne l'ai pas dit, mais vous lui avez déjà consacré aussi un enregistrement. C'est un CD qui est intitulé Bach Inspiration. Donc on peut supposer que vous le mettez très haut parmi les grands compositeurs et personne ne s'en étonnera. Est-ce que dans l'œuvre de Bach, La Passion selon Saint-Jean, que vous allez donner ce soir dans la vallée de l'Alzou, tient une place toute particulière pour vous?
Oui, bah alors ça c'est absolument vrai, oui. Et puis alors donc Bach, évidemment pour moi c'est bon. En fait, je pense que je le mets au summum des compositeurs. Évidemment avec Les Surprises, on a déjà travaillé sur son œuvre. Alors pas dans cet effectif-là, pas avec cette œuvre-là, mais en musique de chambre ou en orchestre. Et puis moi c'est aussi un compositeur que je joue beaucoup en étant organiste et claveciniste, que j'ai enregistré aussi à l'orgue et au clavecin en solo. Mais en tout cas voilà, La Passion selon Saint-Jean, c'est vrai que moi c'est une œuvre que j'affectionne énormément et avec laquelle j'ai une relation particulière aussi, parce que c'est, je pense, une des œuvres que j'ai le plus entendue depuis que je suis petit, puisque mes parents me la faisaient beaucoup entendre. Ils ont travaillé aussi dessus, puisqu'ils étaient comédiens tous les deux, ils avaient une compagnie de théâtre et ils ont notamment fait un spectacle autour de La Passion avec des extraits de La Passion selon Saint-Jean, alors qu'il était enregistré, il n'y avait pas de musicien en direct. Mais en tout cas, c'est vrai que tout jeune, j'ai entendu cette musique-là, et c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui m'a bercé.
Alors, la question que l'on pose souvent aux grands admirateurs de Bach, entre la Saint-Jean et la Saint-Mathieu, est-ce que vous avez une préférence? Beaucoup mettent la Saint-Mathieu au-dessus de la Saint-Jean. Bon, elle est un peu plus longue aussi, elle est peut-être plus accomplie, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai que c'est difficile de trancher. Moi, j'avoue, je préfère la Saint-Jean. Finalement, je vais peut-être dire le contraire de beaucoup, mais je trouve que là, évidemment, c'est pas du tout la même œuvre. La Saint-Jean est, je trouve, beaucoup plus théâtrale, moins longue aussi, donc elle nous parle plus directement, avec ses chœurs de foule qui sont très très prenants. Après, évidemment, les deux œuvres sont magnifiques, mais aussi du fait que j'ai une relation particulière avec cette œuvre-là, je dirais la Saint-Jean. Oui.
Première fois que vous allez la donner en concert avec Les Surprises, c'est une première au Festival de Rocamadour, c'est aussi une première pour l'ensemble Les Surprises. Alors ce sera avec quel effectif et quel soliste?
Alors c'est avec l'effectif avec lequel on travaille souvent, donc là on est une bonne trentaine de musiciens, donc chœur et orchestre. Et moi ce qui m'intéresse, et c'est finalement quelque chose qui se faisait beaucoup à l'époque, c'est que les solistes aient une part entière à l'œuvre, c'est-à-dire que finalement les solistes sont ceux aussi qui vont chanter les parties chorales. Donc c'est que finalement là on a les chanteurs sont 12. Et donc à l'intérieur de ces 12 chanteurs, il y a les 5 solistes qui vont chanter les arias, mais aussi toutes les parties de chœur. Et puis on travaille aussi avec un évangéliste qui est Davy Cornillo, un jeune évangéliste, mais qui est absolument incroyable, je trouve, et puis qui a fait vraiment là aussi pour le coup un travail de recherche sur ce rôle d'évangéliste, puisque dans ses études... il a fait un master et donc un long travail de recherche sur la place de l'évangéliste dans les passions, alors dans la Saint-Jean et dans la Saint-Mathieu. Ce qui a vraiment impliqué qu'il a complètement investi ce personnage-là. C'est une œuvre qu'il chante par cœur et qu'il vit complètement.
Personnage si fondamental que celui de l'évangéliste dans la Saint-Jean. Donc Davy et Cornillo, puis il y a Eugénie Lefebvre, soprano solo, Paul Viguier, alto solo, Paco Garcia, ténor solo, David Zizac sera Jésus et Étienne Bazola sera Pilate. Voilà donc pour la distribution. Cette œuvre, on a l'habitude de l'entendre dans de grandes églises ou dans de grandes salles de concert. Là, vous allez la donner en plein air. Est-ce que ça rend la chose encore plus périlleuse, si je puis dire, je ne sais pas si c'est le bon adjectif, sachant que l'œuvre n'est déjà pas simple à interpréter?
C'est vrai que ça peut être périlleux. En effet, c'est peut-être une première, une Passion Saint-Jean en extérieur. Ça fait beaucoup de premières finalement. Et parce que c'est vrai que l'extérieur, enfin les concerts en extérieur, il y a quand même toujours une petite appréhension aussi du fait que bon, on ne sait jamais quelle température il va faire, s'il va y avoir du vent. Après, c'est beaucoup de choses techniques finalement, puisqu'en effet, s'il y a du vent, c'est le son n'est pas le même. Et puis simplement des choses techniques aussi que des partitions, il faut bien que ça tienne sur un pupitre. Donc si le vent se déchaîne, c'est plus compliqué. Mais c'est vrai que ça donne une attention en plus. Mais je pense que ça va être assez passionnant. Et puis, vu le lieu magnifique aussi, ça peut être assez porteur.
Oui, alors le risque, c'est aussi le taux d'humidité pour les instruments anciens, pour les boyaux.
Oui, ça c'est vrai que ça joue beaucoup. Et en même temps, ça joue aussi quand l'été, on joue dans des églises et qu'il a fait très chaud et qu'il y a un public important. Ben voilà, si une église est pleine, le public forcément dégage de l'humidité juste en respirant. Donc c'est vrai que ça joue sur les instruments anciens, sur les cordes, mais sur les instruments à vent aussi.
Oui, donc ça fait partie des éléments avec lesquels il faut composer de toute façon. Avant de conclure cet entretien, nous allons écouter un extrait d'un autre CD enregistré par Les Surprises. C'était l'avant-dernier. Il était consacré à Henry Purcell et il a pour titre Tyrannic Love. Extrait du CD Tyrannic Love, enregistré par Les Surprises, encore sous le label Alpha Classique début 2021. Est-ce que vous avez aussi une faiblesse pour ce compositeur ?
Oui, complètement. C'est vrai que j'adore ce compositeur. C'est vrai qu'il a un langage tout à fait particulier, vraiment quelque chose de très touchant. Et en même temps, je trouve qu'il sait manier aussi bien l'humour que le drame. Parce qu'il y a des choses extrêmement prenantes chez Purcell qui nous tirent vraiment les larmes. Et en même temps, il y a plein de choses très drôles. Enfin, c'est aussi ce que j'avais voulu un peu faire avec ce disque-là, ces différentes facettes de l'amour chez Purcell. Des choses tragiques, des choses comiques, des choses un peu grinçantes. C'est un compositeur très très intéressant.
D'où ce titre, L'amour tyrannique, voilà. Tout un programme. Prochain enregistrement, je suis certain qu'il y en a déjà qui sont en cours, peut-être même presque terminés. Ça devrait être ou ce sera plutôt quoi ?
Alors en fait, on en a deux qui sortent à l'automne. Donc le premier qui est en septembre, qui est autour de Jean-Philippe Rameau, donc finalement qui est là un de nos compositeur fétiche, puisque notre nom Les Surprises vient d'un de ses opéras, Les Surprises de l'amour. Et justement, ce disque-là qu'on sort avec Alpha, ce sera deux petits opéras inédits, puisque il y en a un des deux, vraiment Le Retour d'Astrée, c'est la première fois que c'est enregistré. Et puis un autre opéra en un acte qui s'appelle Les Sybarites. Et puis au mois d'octobre, chez Harmonia Mundi, il y a un beau projet, je suis très heureux qu'il puisse sortir maintenant, c'est autour de l'œuvre de Mozart, dans lesquelles les surprises ont une partie importante. Et puis il y a aussi beaucoup d'œuvres que je joue en solo à l'orgue et au clavecin, et puis des œuvres de musique de chambre et des sonates d'église avec les surprises.
En tout cas, je constate que l'amour est souvent au centre des préoccupations de l'ensemble Les Surprises et de Louis-Noël Bestion de Camboulas. Il le sera encore ce soir dans cette magnifique Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach. Merci beaucoup, Louis-Noël Bestion de Camboulas. Je rappelle que vous allez diriger l'ensemble Les Surprises ce soir à 20h30 dans une interprétation, la première à Rocamadour, de la Passion selon Saint-Jean de Jean-Sébastien Bach. Le concert a lieu dans la vallée des Alzous, au pied de la cité, qui sera une fois de plus illuminée. Les réservations et l'achat des places sont à faire en ligne sur le site du festival www.rocamadourfestival.com. Excellent après-midi à l'écoute de nos programmes.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine Éric Dupris.